Bonjour à toutes et à tous sur BAC FM 106.1 pour cette émission exceptionnelle sur la réforme des retraites. On va discuter pendant un petit temps de cette réforme avec deux intervenantes, Manon et Pascal. Bonjour à vous.
Bonjour.
Avant de commencer de parler de la réforme en elle-même, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Moi c'est Manon, je suis lycéenne à Raoul Folreau. Et je suis ici pour parler un petit peu notamment d'une action qu'on a fait avec d'autres lycéens et la FSU.
Alors moi je m'appelle Pascal, je suis une retraitée récente, il se trouve que j'ai 64 ans depuis peu. Je pourrais vous en parler aussi de ces 64 ans. Et donc je militais en tant que déléguée des personnels de l'éducation nationale et donc tout ce qui a trait... à la FSU, on s'intéresse aussi aux faits de société et donc j'ai plusieurs engagements et je trouve que c'est intéressant d'expliquer aux jeunes pourquoi ils sont concernés.
Et alors pour préciser à nos auditeurs, la FSU, c'est la Fédération syndicale unitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, puisque vous en avez parlé toutes les deux?
Alors en fait, c'est une fédération qui regroupe des syndicats de la fonction publique. Il y a une grosse majorité d'enseignants, donc du premier, du second degré, l'enseignement agricole. Mais c'est aussi une fédération qui s'intéresse aux sujets de société, par exemple les femmes, l'écologie, etc. Donc dans nos mandats, on a, au-delà de la défense des personnels et de l'école, des engagements sociétaux très forts. Et c'est peut-être à ce titre-là que je suis ici aujourd'hui.
D'accord, ok. Du coup, Pascal, on a compris donc, pourquoi tu t'es engagé pour militer donc pour cette réforme. Et Manon, je voulais savoir, toi, du coup, pourquoi tu as décidé de t'engager là-dedans?
Parce que même si j'ai 16 ans et que je me penche tout juste sur la question de la politique, etc., etc., je pense que c'est important d'apporter du soutien aux personnes qui en ont besoin, dans le sens où les personnes qui sont bientôt retraitées et qui finalement ne le seront pas, les personnes qui voient la retraite encore repoussée, etc., ont besoin de jeunes qui vont militer, même si on ne sait pas exactement pourquoi et qu'on n'a pas d'avis tranché dessus, le soutien est important, donc je pense que c'est important d'aller manifester avec eux.
Et alors justement, tu nous as parlé donc d'une action que vous avez menée avec d'autres lycéens, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Donc avec des lycéens, notamment de Alain Colas, on s'est retrouvés donc, dans les bureaux de la FSU avec donc, Pascal et d'autres, et on a travaillé sur donc, des tracts créés par des jeunes, pour des jeunes, afin que la jeunesse en fait, soit dans la rue, notamment donc le 7 mars, pour que la jeunesse soutienne ce non contre la réforme des retraites.
Et alors comment ça s'est passé, donc, la création de ces tracts quel a été le processus pour en arriver au résultat
coup,
final?
On s'est retrouvés avec donc, les gens qui étaient dans les bureaux. Tout le monde a proposé un peu ses idées, on a donné nos points de vue sur la question. Et puis après, beaucoup par message, on s'est tous envoyé des messages. Les étudiants de Alain Colas sont occupés des modèles. Nous, on a donné un peu nos idées de phrases, etc. On a créé un QR code parce qu'à la base, c'était des tracts qui étaient très, très écrits et très lourds. Et donc, du coup, nous, on a donné notre avis en tant que jeunes sur comment est-ce que la jeunesse voudrait se représenter quelque chose pour que ça paraisse un peu plus cool et plus...
accessible.
Voilà. Et du coup, on a créé ces petits tracts avec... des petites pancartes dedans et un QR code qui amène à des choses plus lourdes si on veut vraiment se renseigner. Après, si on a juste le tract comme on le distribue sans flasher le QR code, on a quand même les informations de où est-ce qu'on doit aller et des phrases percutantes pour réfléchir, donc c'est quand même bien.
Et tu dis plus lourde, on peut dire aussi plus complète, des informations.
Oui.
Parce que j'ai peur que les gens prennent peur de scanner ce QR code. Tu nous parlais donc des jeunes, et je pose la question à toutes les deux. Pourquoi, selon vous, c'est important que les jeunes aillent militer pour cette réforme?
Moi, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que même si à 16 ans, certains, sûrement beaucoup, n'ont pas forcément d'avis sur la politique, on a une présence d'esprit et surtout on a on est humain et on a envie d'apporter notre soutien. Si la cause nous paraît respectable et intéressante, je pense que c'est important de la soutenir, même si on ne comprend pas forcément pourquoi, parce que moi je suis encore un petit peu dans le flou, je ne sais pas trop quoi penser, j'ai pas de point de vue tranché et sûrement que dans quelques années j'aurai changé de point de vue. Mais les jeunes... ce qu'on leur demande, c'est pas d'avoir un point de vue et de penser ça, ça ou ça. C'est sûr que si on est complètement contre et qu'on a déjà un point de vue hyper tranché, forcément, on ne va pas forcément faire la manifestation. Mmh. Mais si on ne sait pas trop où se placer et qu'on se rend compte que les gens dans la rue ont juste besoin de soutien physique dans la rue, bah, autant y aller et être là sans pas savoir pourquoi, mais on a une petite idée quand même, mais on n'est pas tranché sur la question, quoi.
Mmh. Et alors, Pascal, donc là, on a parlé des jeunes, et donc vous nous avez dit que vous êtes retraité. Pourquoi pour vous c'est important, même en étant retraité, de s'engager dans cette réforme ?
Je pense à une phrase que disent souvent les gens qui sont dans la tranche 20-40 ans. De toute façon, des retraites, on n'en aura pas. Et c'est vraiment pour ça que je suis là. C'est pour vous dire, un peu comme... c'est une page d'histoire. Hein. J'ai apporté avec moi le film qui s'appelle La Sociale de Gilles Perret, qui explique comment est née la sécurité sociale et dont la branche des retraites. Et si en 1946, le système a été inventé et qu'il dure encore depuis 70 ans, on peut quand même raisonnablement penser qu'en 1946, l'État n'avait pas les moyens qu'il a maintenant. Et donc, il n'y a aucune raison que l'État, la sécurité sociale, ne paye plus pour les retraites. Et quand je dis la sécurité sociale, ça veut dire qu'il faut que les cotisations entrent dans les caisses de la sécurité sociale pour assurer le régime des retraites. On y reviendra plus tard, si vous le souhaitez.
Mmh. Selon vous... On a un peu parlé des jeunes avec donc les tracts. Comment on peut motiver les retraités qui sont chez eux et qui ne se sentent pas concernés par cette réforme ?
Alors là, je vais être un peu politique parce que le sujet l'est malgré tout. Mmh. C'est que parmi les électeurs du président Macron, il y a beaucoup de retraités et eux qui... je ne sais pas si on devient égoïste quand on devient vieux. J'espère ne pas évoluer comme ça. Mais qui, eux, voient leurs intérêts et disent il faut bien que les jeunes travaillent pour payer une retraite. Ce qui est un non-sens total. Donc ce ne sont pas ces gens-là qui vont aller dans la rue. En revanche, il y a beaucoup de retraités. Et il y a beaucoup de retraités parce que, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que c'est un système qui est juste et qui est solidaire et que, effectivement, ça concerne toutes les générations. J'entendais une petite fille, parce que je parle beaucoup à beaucoup de personnes, donc une petite fille, je lui ai dit « Pourquoi tu es dans la manif ?» Elle m'a dit « Moi, j'ai 6 ans et je veux que ma grand-mère elle puisse s'occuper de moi. » Et c'est une phrase qui en dit long, en fait, sur toutes les incidences de cette réforme parce que, et là, je pourrais en parler plus tard par rapport notamment à la place des femmes dans la société. Mmh. Si les grands-mères peuvent garder les petits-enfants, ça veut dire que ça permet à des femmes de travailler, par exemple. Et souvent, quand on n'a pas les grands-parents à côté, ça veut dire qu'il faut payer un système de garde. Et dans ces cas-là, qui est-ce qui renonce à son travail pour garder les enfants le mercredi ? Eh bien, ce sont les femmes. Et par ricochet, c'est ce pourquoi les jeunes sont extrêmement concernés. Parce que par ricochet, elles auront une retraite moindre parce qu'elles seront moins payées, elles auront une évolution de carrière abîmée et il leur manquera des trimestres. Je ne voudrais pas laisser à penser qu'il faut avoir des enfants à tout prix quand on est une femme, parce que chacun choisit sa vie et d'avoir des enfants ou pas. Mais même si on n'a pas d'enfants, on est aussi concerné par ce plafond de verre et par l'évolution de carrière des femmes qui est souvent moindre, parce que on est quand même encore dans une société patriarcale et l'ambition scolaire des filles pour les carrières scientifiques notamment est rabaissée parce que on les cantonne dans des rôles d'aide à la personne, vous voyez, comme si la gentillesse et la maternité et s'occuper des autres, c'était pour les femmes, être soignante, infirmière, etc. Donc, on pourra parler aussi plus tard de la pénibilité.
Alors, on va revenir à ce que vous avez dit un petit peu avant. Vous parliez qu'on avait besoin des retraités. Pour vous, du coup, comment ça impacte la disponibilité des retraités, on va dire ? Vous parliez des femmes, mais par exemple, on peut aussi évoquer les associations ou des choses comme ça ?
Tout à fait. D'ailleurs, ça s'est vu après le Covid, comme les personnes ont été empêchées, c'est pas une critique, hein, c'est un constat, n'ont pas pu aller aider dans les associations. Il y a eu une des déshabitudes, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'après, les Restos du Cœur, il y a plein d'associations qui ont peiné à retrouver des bénévoles. Alors, j'ai envie de dire que les Restos du Cœur, on ne devrait pas en avoir besoin puisque l'État devrait nourrir la population et faire en sorte que personne n'ait besoin d'accéder aux Restos du Cœur. Mais là, vous pourrez m'inviter pour un autre sujet. En revanche, la disponibilité des retraités sera impactée également parce que l'âge de vie en bonne santé est en moyenne de 63 ans. À partir de 63 ans, ce sont des statistiques, hein, c'est pas moi qui le dis, la vie en bonne santé est... n'est plus garantie de la même manière. Et là aussi, il y a des différences suivant le métier qu'on a exercé. Alors, vous allez me dire, je ne réponds pas à la question, si je vous dis qu'il y a un quart des ouvriers qui sont morts à 60 ans, parce que ceux-là, ils ne vont pas aider dans les associations, puisqu'ils sont déjà morts du fait de la pénibilité de leur travail. Et il y a 13 ans aussi de différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. Donc ça, ça interroge quand même. Et puis, quand on sera, si on est en retraite à 64 ans, eh bien, on sera plus fatigué, moins disponible pour les associations. Et puis, quelqu'un qui a travaillé 40 ans, enfin, il peut avoir droit à se reposer parce qu'il a cotisé pour ça. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux retraités. Les retraités ont cotisé pour pouvoir avoir un... Ça devrait s'appeler un salaire continué, en fait, pour avoir une pension.
Et la pénibilité, pour vous, du coup, est-ce qu'il devrait y avoir des régimes spéciaux pour ça, que les ouvriers, par exemple, qui meurent à 60 ans, aient une retraite un peu plus tôt ?
Oui, et là, ce qui est très préoccupant quand même dans ce projet de réforme, c'est que des critères de pénibilité qui ont été retirés, par exemple, le port des charges lourdes. Et même s'il y a des robots maintenant pour doucher les petits vieux dans les EHPAD, franchement, les aides-soignantes et les aides-soignants portent des charges lourdes parce qu'il y a des gestes au quotidien qui sont fatigants. Il y a des pénibilités dans les métiers du bâtiment, il y a des pénibilités, par exemple, l'exposition aux matières toxiques, ça a été retiré. Enfin, il y a des critères qui ont été retirés qui ne devraient pas être. Et je vais faire une petite parenthèse par rapport aux enseignants et aux enseignantes. C'est un métier qui a été reconnu comme pénible, puisque autrefois, les instituteurs et les institutrices étaient à la retraite à 55 ans. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur et pour échanger avec beaucoup de personnes, il y a une fatigue avec l'âge. Moi, je suis favorable au retour du départ en retraite à 60 ans, notamment pour les enseignants et les enseignantes. Il y a une fatigue avec l'âge qui est tant physique que psychologique, et je voyais, on a vu le recteur tout à l'heure, il était question de classe à 35 ou 37 élèves, ça génère forcément de la fatigue, et donc les profs font le maximum pour être à la hauteur par respect pour les élèves, mais ça génère une fatigue très très importante parce que quand on corrige des copies jusqu'à 2h du matin, bah forcément c'est au détriment de tout et notamment de la santé nerveuse et psychique.
Et vous parliez de la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron et son gouvernement avancent des arguments pour la retraite à 65 ans et vous la voulez à 60. Pour vous, c'est quoi la solution ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
La question est intéressante parce que là, il est question, pour faire avaler la pilule, si je peux me permettre l'expression, de dire que finalement, ça n'impacte pas tellement puisque ça ajoute 4 mois ou 9 mois selon qu'on est un homme ou une femme. Bon, déjà, il y avait un mensonge par rapport aux femmes. Mais en fait, ce calcul-là, il est sur l'ensemble de la population. Le souci principal que nous y voyons, et là, on est aussi très content d'être en intersyndical, c'est que, c'est pas que la FSU qui dit ça, bien sûr, c'est que la charge, et là, on a un économiste qui l'a montré, qui s'appelle Michael, qui est prof à la Sorbonne, la charge, le poids de cette réforme, le poids financier, va être porté par les générations de 1961 à 1972. Par les salariés. Donc, et quand on dit que ça concerne, ça allonge de 5 mois ou de 9 mois, enfin, c'est en moyenne, mais effectivement, ça sera très différent pour ces générations-là. Et le problème, c'est que ça pèse sur les salaires uniquement de cette tranche d'âge-là. Or, je ne vais pas vous écouter la radio comme moi tous les jours, avec le CAC 40 qui se porte très bien et les entreprises qui font des profits considérables. Voilà, les bénéfices des grosses entreprises et des actionnaires ne sont pas taxés et imposés au même montant que les salaires. Ça doit être 8%, je crois, pour les entreprises et les actionnaires et 28% pour les salariés. Donc, il y a une inéquité évidente. Alors, je suis désolée de reprendre l'expression « président des riches », mais en l'occurrence, si M. Macron était là, je lui dirais effectivement « vous êtes... » Vous êtes le président des riches.
Et avant de conclure l'émission, si vous aviez Emmanuel Macron devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je laisse un silence parce que j'essaie de limiter mes propos parce que j'aurais énormément de choses à lui dire. Mais je vais me centrer sur deux choses. Je dirais, monsieur le président... il est assez irrévérencieux de n'envisager une réforme que pour privilégier les riches. C'est pas schématique, c'est vraiment ça qui se passe. Je dirais aussi qu'il est vraiment indigne de fonder un tel bouleversement de la société sur un mensonge. Et enfin, j'ai un troisième point qui est vraiment préoccupant, c'est le point de vue de la démocratie. On a déjà vu 9 ou 10 lois passer avec le 49-3, c'est-à-dire un truc expéditif pour éviter la discussion, bon, adopté comme ça. Et là, il a rusé en prenant un autre article de la Constitution, le 47-1, qui fait que tout doit être plié et en 22 jours. Et ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de bouleverser 75 ans d'histoire avec un 47-1. Et je pense que l'autoritarisme est vraiment très condamnable parce que ça va encore une fois discréditer la politique, alors que la politique c'est une belle chose puisque c'est l'organisation de la société au service de toutes et de tous normalement.
Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues sur Bac FM aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Avant de partir, est-ce que vous pouvez nous parler des prochains événements, manifestations, les grèves, notamment demain
Il y a une manifestation. Donc, demain, il y a une manifestation à Nevers. Et nous, comme du coup le but des tracts c'était d'emmener la jeunesse, on a décidé de créer un deuxième point de rassemblement donc, qui partirait du Banlay à 14h15. Mais donc il faudrait se retrouver au Banlay à 13h45 avec tous les jeunes qui le souhaitent et qui le peuvent. On sera accompagné d'enseignants et des jeunes. Et le lycée Alain Colas va nous rejoindre aussi au Banlay. On va partir tous ensemble, étant donné qu'on a créé les tracts avec une partie des jeunes de Alain Colas. Donc voilà.
Alors soit ils partiront d'Alain Colas à 13h45 pour rejoindre le point de manifestation le plus proche d'Alain Colas, c'est-à-dire devant Gamme Vert, soit effectivement ils viennent au Banlay, c'est sûrement... Vous avez préparé des belles banderoles ?
Oui.
Ah, on a hâte. Et des beaux slogans ?
Aussi.
Eh bien, c'est magnifique.
Eh bien, super. Eh bien,
merci
c'est noté. Merci beaucoup. À bientôt sur Bac FM.